Vous écoutez France Culture.
Élection municipale 2014, le rendez-vous en direct d'Amiens.
Eh bien, le décor est planté ce soir dans le rendez-vous en direct sur France Culture et en public, nombreux dans le hall de la Maison de la Culture. Il sera question de politique culturelle, d'Europe, de cirque, de bande dessinée, d'ortillonnage et même de tressage. Ami Benoît Lagane, on vous a pas entendu.
Amiens, place forte du cirque, ce sera avec Jean-Pierre Marcos, directeur du cirque Jules Verne, Benjamin Grain, voltigeur à la jockey et fondateur du cirque équestre Plume de Cheval. Un gros plan également sur Pascal Mériot qui a fait d'Amiens une ville de la BD.
Il y aura aussi un plateau accrochage avec le peintre François Rouen qui est derrière moi à quelques jours de son exposition ici, Les Trotteuses, un autoportrait en trois couleurs, retour sur une peinture de gestes, découpage, assemblage, tressage, comme la possibilité d'un autre rapport sexuel.
Sans oublier la session musicale en direct, chanson française avec Martin Angor.
Mais on ouvre tout de suite avec un journal de la culture en campagne. Plateau Vie culturelle avec vous, Gilbert Filinger. Vous êtes le directeur de la Maison de la Culture d'Amiens qui nous accueille. En face de vous, Caroline Sévin, directrice du Pôle Image de la région Picardie. Et entre vous deux, eh bien, Philippe Lacoche, qui est journaliste au Courrier Picard. Alors peut-être une première question pour prolonger le magazine de la rédaction de 18h. Dans cette période de campagne, pré-campagne plutôt électorale, quelle place pour les enjeux culturels ici dans les programmes et dans les discours des candidats ? Philippe Lacoche, peut-être d'abord le journaliste.
Bah écoutez, que dire ? La culture, on le sait très bien. La culture est un enjeu éminemment politique, puisque la culture en elle-même, comme tout acte, de toute façon, tout acte des citoyens en général, il y a toujours une dimension politique. Donc bien sûr qu'à Amiens, ça revêt un intérêt tout à fait particulier. C'est une ville qui est éminemment culturelle, grande ville universitaire, pas très loin de Paris. C'est à la fois un avantage et un désavantage. Je pense, moi, que c'est un avantage. Donc, bien sûr que la culture est un enjeu important, je dirais.
Et ça prend quelle forme dans les discours des candidats ?
Alors, dans le discours des candidats, je suis assez mal placé pour en parler parce que je ne m'intéresse plus. Je suis, comme tout citoyen, j'ai fait beaucoup de journalisme politique dans ma vie. Là, depuis quelques années, depuis 2003, je me consacre exclusivement, et c'est avec beaucoup de plaisir que je me consacre quasiment exclusivement à la culture et aux pages magazines. Donc, bien sûr qu'il y a, comme je disais, des enjeux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je crois que c'est actuellement le grand problème de la culture. C'est un problème de fond, tout simplement, je dirais. Il y a une création extrêmement importante nationalement, ça on le sait, dans cette ville en particulier. Moi, j'ai suivi très très longtemps la chanson, le rock en particulier, un peu moins maintenant.
Vous avez même écrit dessus, oui, on y reviendra.
J'ai écrit dessus beaucoup, oui. Et je vous garantis qu'actuellement, toujours depuis de nombreuses années, c'est une ville extrêmement, extrêmement audacieuse, même en matière de culture, parfois traditionnelle également. Ça n'a rien de désagréable, au contraire. Donc tout ça, il y a un brassage de différentes expressions qui fait que cette ville, effectivement, l'enjeu, pour répondre à votre question, l'enjeu est important, je dirais même capital.
Quels sont les grands dossiers qui doivent être abordés justement lors de cette pré-campagne sur le plan culturel, Gilbert Filinger ?
Mais moi, il me semble que ce qui est important aujourd'hui, c'est que le politique s'intéresse à nouveau à la culture. Parce qu'on a quand même un sentiment, disons que j'ai, moi, personnellement, d'un désintérêt qui grandit, mais ça, c'est pas... Je parle pas que d'Amiens, donc ça, c'est au niveau national.
Non, mais justement, c'est ici, à Amiens.
Bah, ici, à Amiens, je pose exactement la même question. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, quel est l'intérêt aujourd'hui ? C'est-à-dire, le politique doit se réengager sur la question de la culture. Le politique doit se réengager sur la question de la création. Parce que, moi, il me semble, ce qui est important dans une ville, justement, c'est cette question de la création, et puisqu'elle est absolument vitale. Et donc, moi, aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est ce que j'essaye de dire aux politiques quand je les rencontre, intéressez-vous à ça, puisque une ville a besoin de ça.
Caroline Sévin, quand vous les rencontrez, vous leur parlez de quoi ?
De l'importance, évidemment, de ne pas oublier la culture, évidemment, dans des temps budgétaires compliqués, où, évidemment, là encore, on se resserre sur les compétences obligatoires, en tout cas, c'est la tendance, et qu'il s'agit, justement, de ne pas faire de la culture une variable d'ajustement.
Alors justement, par rapport à la place de la culture, puisque la Maison de la Culture d'Amiens est un des pôles centrales, elle est placée où dans la géographie de la ville, cette Maison de la Culture ?
Disons, dans son histoire, elle est au cœur de la politique culturelle. Alors,
non, mais je parle sur le terrain géographique.
Sur le terrain géographique.
Dans la ville, elle est
dans
où ?
Dans la ville, elle est au centre.
Véritablement au centre ?
Elle est. C'est-à-dire, non, c'est-à-dire le centre de la ville se déplace. Aujourd'hui, vous avez un centre, c'est-à-dire l'histoire d'Amiens a fait qu'aujourd'hui, le centre se déplace vers les quartiers de Saint-Leu, les étudiants sont plus vers là-bas. Mais en même temps, après, c'est à nous de batailler pour que ce centre revienne par ici.
Ah donc, vous êtes légèrement décentré. Alors,
on est légèrement décentré, exactement.
Et ça se ressent au niveau de la programmation, au niveau de...
Non, puisque je crois que les gens, ils connaissent la maison, ils savent comment y venir, ils viennent, il y a du public.
La preuve, ce soir, le public est là aussi.
Il est là, la fréquentation est plutôt en augmentation, donc on n'est pas dans un souci, si vous voulez, de placement géographique. Je pense que s'il y a un problème, il est ailleurs.
Oui, on vous posait cette question sur la situation géographique parce qu'on se demandait comment les lieux de culture investissaient réellement la ville. Est-ce que le tissu culturel était homogène ? Comment il investissait précisément tout le territoire de la ville ?
Mais si vous voulez, au début, c'est-à-dire quand l'histoire, dans les années 60, quand la maison de la culture est née... 66, exactement, quand Malraux l'a inaugurée, la maison était vraiment le pôle. C'est-à-dire, tout le monde venait là, les étudiants venaient là. Mais aussi, pour une simple raison, les étudiants vivaient à côté. C'est-à-dire, tout le pôle universitaire était autour de la maison de la culture. Le pôle universitaire s'est déplacé, donc les gens se sont déplacés. Mais ce qui n'empêche qu'aujourd'hui, les gens viennent. Et ce qui est aussi important, c'est que la maison de la culture sort de ses murs. Et c'est ce qu'elle fait. C'est-à-dire, non seulement elle va jouer dans d'autres lieux, c'est-à-dire elle se déplace, elle produit, elle joue, mais également elle crée des choses ailleurs. Donc on a créé ce festival dans les Ortillonnages. C'est aussi une manière de rencontrer...
Festival d'art contemporain dans les
Ortillonnages. D'art contemporain, de paysages, de plasticiens. Mais c'est aussi une manière de rencontrer des publics peut-être qui ne viendront jamais ici et de les surprendre là où ils vont se promener.
Caroline Sévin, par exemple, en ce qui concerne le cinéma, quand on arrive à Amiens, qu'on n'est jamais venu, qu'on sort de la gare, on voit le multiplex Gaumont. Est-ce que c'est ça le cinéma à Amiens, par exemple ? Est-ce que la place géographique du cinéma à Amiens, c'est ça ?
Non, ni la place géographique, ni la place culturelle principale. C'est-à-dire que la vie culturelle cinématographique à Amiens est assez riche. Il y a effectivement ce Gaumont qu'on voit tout de suite en sortant de la gare, mais il y a aussi d'autres cinémas. Il y a le ciné Saint-Leu dans le quartier dont parlait à l'instant Gilbert. Il y a ici même, dans la Maison de la Culture, un cinéma qui s'appelle le Studio Orson Welles. Ces deux salles sont art et essai. Elles sont mono-écran, ce qui n'est pas sans poser des questions compte tenu de l'évolution de l'exploitation et l'accès aux films, évidemment, surtout quand des cinémas comme le Gaumont décident d'aller vers la diversité. Mais il y a aussi d'autres acteurs. Il y a aussi le Festival du film d'Amiens, qui est quand même un acteur incontournable de la question du cinéma ici sur la région, et même, je dirais, au niveau national et international, de par sa spécificité sur les cinémas du Sud. Et puis, il y a aussi d'autres acteurs. Je voudrais rebondir sur la question que vous posiez à Gilbert tout à l'heure, sur comment les équipements maillent le territoire. Les équipements maillent le territoire de par leur situation, qu'elle soit centrale ou périphérique, à la limite, n'est pas très important. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est la question du second cercle, c'est-à-dire tous les autres acteurs, qui sont d'ailleurs culturels ou pas forcément, les associations, les enseignants, les animateurs, les gens du temps scolaire, du hors-temps scolaire, qui travaillent avec les adultes, les jeunes publics, et qui sont les chevilles ouvrières de cette vie artistique et culturelle, bien que pas forcément représentée au premier chef. La preuve, c'est qu'à ma connaissance, il n'y en a pas ce soir.
Exactement. Géographie encore, ce qui concerne l'audiovisuel, la Picardie est située entre une région parisienne qui a toujours attiré les cinéastes et le Nord-Pas-de-Calais, très active via notamment son centre régional de ressources audiovisuelles. Quelle place, quelle marge de manœuvre vous reste-t-il avec votre pôle image ?
Très large. Très large parce que, d'abord, la question de l'action culturelle cinématographique ne se résume pas à la question de la production, et heureusement. Même si c'est bien souvent l'arbre qui cache la forêt. On le voit d'ailleurs ne serait-ce que dans les crédits du CNC. Le CNC, effectivement, c'est un super système de financement du cinéma français. Mais l'action culturelle cinématographique, elle est avant tout portée dans une mesure par le ministère de la Culture, mais aussi et surtout par les collectivités territoriales. Donc tout ça pour dire que nous, on travaille effectivement sur l'accompagnement des tournages, et la Picardie a de tout temps été une terre de tournage, justement en raison de sa proximité à Paris, puisqu'il y a de très grands décors très différents et beaucoup de patrimoine bâti à proximité. Mais il y a aussi tout le travail qu'on fait avec les salles de cinéma, et elles sont très nombreuses sur le territoire, et le travail qu'on fait en accompagnement des acteurs sur l'éducation à l'image, qui est un enjeu essentiel.
Benoît Lagan.
Alors pour schématiser, on dit souvent dans les discours qu'Amiens est à mi-chemin entre Londres, Bruxelles et Paris. Alors quelle a été finalement l'influence de ces trois villes sur la vie culturelle d'Amiens ? Gilbert Filinger.
Mais si vous voulez, aujourd'hui, l'Europe est importante pour cette maison, par exemple. puisqu'on a des projets voilà, qu'on fabrique. Avec
vous étiez à Salzbourg ce matin.
J'étais à Salzbourg ce matin et
pourquoi
j'étais à Londres lundi. Vous voyez. Donc,
Salzbourg, pour quelle raison ?
Ben, puisque là, on fait encore partie d'un projet européen. Cette ville, voilà, Berlin, Salzbourg, Bergen, Courtrai, et on essaye d'aider la jeune création.
Et à Londres, c'était pour...
Londres, c'était les jardins, justement, puisque nous avons également donc, des partenariats avec une structure anglaise, une ville anglaise, qui est la ville de Kingsling. Et là, il s'agissait de rencontrer des paysagistes. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti à Londres.
Alors, on comprend bien sûr, les enjeux d'une politique culturelle ouverte sur l'Europe. Et pourtant, est-ce que cela ne risque pas de se faire au détriment, par exemple, du tissu et des initiatives locales ? Je vous pose cette question parce que, quand on a préparé l'émission, tout à l'heure, on a reçu la visite du dramaturge Yacoub Abdelatif, qui a longtemps animé ici le festival Voyage au cœur de l'été. Il est venu nous voir et il nous a parlé de l'entre-soi, pour lui, du monde culturel d'Amiens, de l'absence de personnalité, et le plateau d'aujourd'hui le reflète, issu de la diversité. Et il rappelait le fait qu'on lui avait confisqué son festival. Peut-être un mot sur cette situation, j'imagine, Philippe Lacoche. Vous connaissez le dossier ?
Oui,
sur
je connais le dossier. Yacoub a fait un travail considérable, extrêmement intéressant. Personnellement, je regrette qu'il n'y ait pas eu de effectivement, faute, encore une fois, sûrement de subventions, d'appui, etc. C'était une excellente initiative qui était tout à fait représentative d'une manière de diversité. À la fois musical, avec en tant qu'écrivain, j'étais invité du reste parce qu'il a invité dans ce cadre des écrivains extrêmement intéressants, notamment Gardel, etc.
Il avait venir aussi Costa Gavras,
bien sûr,
exactement. Un festival de la diversité inscrit au cœur même de la ville.
Inscrit au cœur même de la ville, effectivement.
Alors pourquoi on lui a supprimé ce festival ?
Alors écoutez, je crois que je ne peux pas parler en son nom, c'est difficile. Je crois qu'il y a un problème, effectivement, encore une fois, de subvention, peut-être d'incompréhension aussi, parfois. Mais difficile de parler en son nom, d'autant que Yacoub en parle très bien et souvent avec passion. Il est là
c'est
dans
ce qu'il
salle.
A fait voilà. Justement tout à l'heure avec
mais nous. En tout cas, moi, personnellement, en tant que journaliste, je ne peux que le déplorer, mais je suis persuadé que je suis persuadé que les élus en ont conscience.
Il n'y a eu aucune mobilisation du milieu culturel pour lui ?
Si, si, nous, Courrier Piqueur, on en a bien sûr fortement parlé. On en a parlé. Et je pense que les autres médias.
Caroline Sévin ?
Bien sûr.
Je rebondis sur ce que vous disiez pour noter deux choses. La question de la diversité, elle se pose évidemment dans les termes que pose Yacoub à travers cette question. Pour ma part, et c'est très personnel, je m'interroge aussi sur la place des femmes, globalement. Voilà. Deuxième chose.
Mais oui.
Je vois que je ne suis pas la seule.
Mais non. Et on s'est même interrogé justement sur cette place-là quand on a voulu construire les plateaux.
Et deuxième chose qui n'est pas moins importante, c'est que j'évoquais tout à l'heure la question des contraintes budgétaires. Malheureusement, ce qui arrive à Yacoub est en train de s'accélérer. Et je ne vais pas dire que tous les jours, mais enfin, en ce moment, quasiment toutes les semaines, bien que l'actualité récente me fait dire plutôt tous les jours, il y a des associations, il y a des acteurs culturels qui sont tout simplement en train de déposer la clé sous la porte. Je pense à des compagnies de théâtre, je pense à des associations audiovisuelles, je pense voilà, à plein d'acteurs. Et ça se fait tout ça dans un silence extrêmement assourdissant.
Gilbert Fellinger, vous voulez peut-être combler ce silence par rapport à cette situation, l'entre-soi culturel dénoncé ici et l'absence de diversité qui peut créer, on le sait, un climat de tension et un sentiment d'exclusion, bien sûr.
Oui, mais en même temps, c'est-à-dire ce qu'on essaye de faire, je pense que ce qui est très volontariste justement, c'est que cette maison est ouverte à tout le monde. C'est-à-dire que tous les publics puissent y retrouver.
Il ne suffit pas d'ouvrir une maison à tout le monde pour que tout le monde y vienne.
Non, mais justement, mais il faut diversifier les choses. Et en diversifiant les choses, on y arrive. Et c'est en faisant un travail de terrain. Puisque, évidemment, c'est-à-dire vous programmez, vous avez votre brochure, elle sort, et ça, ce n'est pas suffisant. Après, il y a une équipe, il y a des gens. On travaille avec des gens, et on travaille avec les artistes, et on implique les artistes. On a un artiste que vous connaissez peut-être, Marcel Bozonnet, qui s'est mis dans une démarche très volontariste, c'est-à-dire de poser cette question de l'identité, donc de travailler à ce niveau-là. Donc il a ses derniers spectacles ne parlent que de ça. Donc c'est Le Couloir des Exilés, c'est Chocolat Clou de Nègre. Et donc il y a tout un travail qui est mené autour de ça. Et ce qui permet justement à des gens de venir. Alors c'est vrai que la programmation ne suffit pas et que ce travail de terrain est absolument nécessaire. Mais en même temps, la programmation est essentielle à ce niveau-là, puisque c'est elle qui permet justement ce travail de terrain.
Peut-être une dernière question, Benoît Lagan.
Oui, un peu plus personnel, Gilbert Filinger. Vous dites qu'il y a eu deux rencontres...
Enfin, vous dites, on a lu.
Oui, c'est vrai. Deux rencontres, parce que parfois c'est faux ce qu'on lit. Deux rencontres déterminantes qui vous ont poussé il y a longtemps à vous diriger vers le monde de la culture. Quelles sont ces deux rencontres-là ?
Qui vous a dit ça ?
On l'a lu dans un article. Et en plus, on s'est demandé, mais quel est le journaliste qui ne lui a pas posé la question ? Mais quelles sont ces deux rencontres ?
Écoutez, j'avais... j'étais un élève, pas très bon élève, mais j'étais dans un lycée et c'était ma prof d'anglais qui m'a simplement amené voir dans un premier temps Strehler. Donc j'ai vu, j'avais 16 ans, c'était magique, ça a totalement changé ma vie. Et quelques semaines après, j'ai eu cette chance de voir le Living Theatre. J'étais censé voir une pièce qui était Mystères et Petites Pièces à cette époque. Et j'ai vu la trilogie qui était présentée à l'époque à Mulhouse. J'étais absolument pas amené à faire ce métier. J'étais plutôt, je pensais tout à fait autre chose. J'étais plutôt un rocker, j'organisais des concerts de rock, des choses comme ça. Mais ça a totalement changé ma vie. Je pense que ça a déterminé et ça m'a amené à faire le métier que je fais aujourd'hui, puisque j'ai eu ce choc. Et ça, j'y crois profondément. Je pense que l'artiste là peut changer la vie de quelqu'un.
Le rendez-vous, 10h, la session.
Eh bien, puisque vous parliez de rock et de musique à l'instant, on en profite, transition inespérée. La session Benoît Lagan, préparée par Mathieu Conquet.
Voilà, une session programmée par Mathieu Conquet avec le soutien de l'équipe de la Lune des Pirates à la scène des musiques actuelles ici à Amiens. Et on reçoit donc ce soir l'auteur, compositeur, interprète Martin Angor. Alors en mots, peut-être Philippe Lacoche, vous qui avez longtemps travaillé l'univers de la musique, vous avez même écrit deux livres, Rock d'ici, Tendre Rock. Vous avez débuté comme stagiaire dans la revue musicale Best, je crois, si je suis
exactement
bien informé.
Oui.
Un mot peut-être sur Martin Angor, qu'est-ce qu'il représente ici à Amiens ?
Martin Angor, c'est une expression tout à fait audacieuse et tout à fait intéressante qui, justement, moi, c'est un rock qui me plaît parce qu'il y a des mélodies. Moi, je me méfie un peu comme Benoît Duterte, que j'aime beaucoup. Je me méfie un peu des avant-gardes. Hein. Désolé, Gilbert. Donc, j'aime beaucoup parce que c'est un rock extrêmement rassurant avec des mélodies, des textes qu'on entend bien, qu'on écoute bien, des textes littéraires en même temps. Tout ça me plaît beaucoup. C'est un déferlement, effectivement, de la scène amiennoise rock-pop.
Pas avant-gardiste, mais pas réactionnaire non plus.
Je suis, d'un point de vue esthétique, je suis totalement réactionnaire, bien sûr.
Non, complètement assumé, manifestement.
Non, mais si, je suis totalement réactionnaire, je reconnais. Bien sûr, les avant-gardes souvent me gavent, je les trouve prétentieuses et assez inutiles. Et moi, je suis pour l'art pour le peuple, pas Djanov quand même, mais pas loin, quoi. Je suis pour que le peuple accède directement à l'art, je suis assez marxiste là-dessus, mais bon, c'est un autre débat.
Alors, oui. Martin Angor est avec nous sur France Culture, en direct et en public depuis la Maison de la Culture d'Amiens. Il nous interprète avec sa guitare, son ordinateur, je crois, et sa boîte,
juste sa guitare.
Alors, j'avais tout faux, mais c'est « Je voudrais quelque chose », ça c'est bon, c'est le bon titre ?
C'est même pas le bon titre.
Si la lumière change.
Ah, j'ai tout faux alors.
Et vous êtes viré.
Bon, d'accord, je m'en vais. C'est à vous.
Et si la lumière change, tourne-toi mon ange, car je vais me transformer en... Tu me reconnaîtras pas, tu ne me regretteras pas, et tu n'essaieras pas de m'empêcher de me volatiliser, de me pulvériser, de me dissoudre dans le matin orange. Tu seras la gardienne de mon étrange secret, celui qui la nuit me fait sursauter. Tu oublieras très vite que l'on s'est connu. Tu ne seras plus sûr de mon prénom. Un souvenir diffus, une illusion d'optique. Il faisait sombre et puis nous avions bu. Tu seras la gardienne de mon étrange secret, celui qui la nuit me fait sursauter. Et si la lumière change, tourne-toi mon ange, car je vais me transformer en... Tu me reconnaîtras pas, tu ne me regretteras pas, et tu n'essaieras pas de m'empêcher de me volatiliser, de me pulvériser, de me dissoudre dans le matin orange. Tu sera la gardienne de mon étrange secret, celui qui la nuit me fait sursauter. Tu oublieras très vite que l'on s'est connu, tu ne seras plus sûr de mon prénom. Un souvenir diffus, une illusion d'optique, il faisait sombre et puis nous avions bu.
Direct de la Maison de la Culture d'Amiens. C'était Martin Angor avec donc Si la lumière change. Là, je ne me suis pas trompé. Son premier album donc, est encore disponible. Il avait été repéré il y a quelques années. On attend le second en cours de préparation. Peut-être une question. On nous a dit en préparant l'émission que vous aviez un projet de comédie musicale sur Amiens.
À quoi ça ressemblerait? C'est encore un petit peu secret. Je travaille.
Le secret est complètement éventé. Je peux vous garantir.
Non, mais je me sers un petit peu de mes chutes, de tous les morceaux qui sont un peu des impasses. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ça racontait un peu une histoire. On est dans une ville qui est un peu marquée. Il y a eu des bombardements. C'est une ville qui a été reconstruite. Moi-même, j'ai eu mes bombardements et j'ai été reconstruit aussi un petit peu. Et bah, y a un parallèle qui est en train de se faire. Donc, il y a une histoire qui commence à raconter. Voilà. Quelque chose un peu autobiographique et puis quelque chose qui parle de la ville d'Amiens. C'est vrai.
On a bien hâte.
Le rendez-vous, élection municipale 2014, villes en campagne. Le rendez-vous en direct d'Amiens.
Et de hall de la Maison de la Culture en public, plateau cirque avec vous, Jean-Pierre Marcos, directeur du pôle national des arts du cirque et des arts de la rue à Amiens. Et puis vous, Benjamin Grain, fondateur de la jeune compagnie de cirque équestre Plume de Cheval. Alors que le cirque, c'est ici vraiment un pan historique de la culture d'Amiens, puisque c'est ici qu'a été construit un des premiers cirques en dur, en 1889, inauguré par Jules Verne lui-même. Sur le plan architectural, d'abord, en quoi cet édifice était révolutionnaire pour l'époque ?
Je crois qu'il était révolutionnaire. Il était révolutionnaire parce que, d'une part, on n'a pas simplement inauguré le cirque avec Jules Verne. Jules Verne a participé à la construction du cirque. Je veux rectifier cet aspect parce que c'est très important. Parce qu'en fait, il était très ami avec Théodore Rancy. Et il a voulu, avec Théodore Rancy, qui avait construit beaucoup de cirques en France, à son initiative, à Rouen, dans d'autres villes, il y a eu des cirques comme ça qui ont été construits. Et dans cette amitié qu'il y avait entre Théodore Rancy et Jules Verne a voulu, alors qu'il était conseiller municipal d'Amiens, il a voulu que ce cirque-là soit le plus beau, le plus grand, le plus ouvert au niveau de l'amplitude et notamment au niveau des hauteurs pour pouvoir présenter des numéros qu'on ne pouvait pas faire ailleurs, notamment au niveau des trapèzes.
Benoît Lagan, quelle est justement la particularité de ce cirque qui a servi aussi de décor au cinéma? Je crois que Fellini a tourné un film.
Les clowns.
Jean-Jacques Benex aussi.
Rosine et les lions.
Voilà. Vous êtes bien informé.
Nico Papatakis. Nico
Papatakis aussi, oui. La particularité technique peut-être de ce cirque?
La particularité technique de ce cirque d'Amiens, c'est qu'en fait, c'est un objet complètement ouvert sur presque 2000 places, entièrement, sans poteaux. Une visibilité totale avec une piste de 13 mètres qui est la piste tracée par Philippe Astley, créateur du cirque moderne, avec le cheval et donc avec la chambrière qui faisait 6,50 m et la piste qui faisait 13 mètres. Et donc cet aspect absolument unique dans son ouverture et dans sa magnificence est quelque chose d'assez exceptionnel dans cette ville. Pour moi, enfin, qui ai maintenant visité un certain nombre de cirques en dur en Europe et dans le monde, je pense que c'est un des plus beaux qui puisse exister de cette manière-là, avec cette pureté. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Fellini a fini de tourner son film Les Clowns dans ce cirque à l'époque avec Jean-Baptiste Thierry et Victoria Chaplin.
Vous dites parfois aussi, Jean-Pierre Marcos, que lors de la création de ce lieu, Jules Verne conçoit ici la première scène nationale d'Amiens, donc 80 ans avant la Maison de la Culture. Une explication pour cette surinterprétation a posteriori, mais qui est pas mal.
Bah, je pense qu'en effet, dans son esprit, il y avait un théâtre à Amiens, mais qui ne lui convenait pas forcément totalement. Et il avait l'ambition de, qu'il y ait des formes, je dirais, peut-être à l'époque, on aurait dit contemporaines ou modernes, qui soient présentées dans la ville. Et lui, il pensait que le cirque, c'était une modernité. Et donc, d'ailleurs, il a écrit un roman qui s'appelle César Cascabel, qui n'est pas très connu, mais qui est un roman absolument extraordinaire. Qui raconte l'histoire d'un banquise qui remonte par le détroit de Bering pour revenir par la Russie vers sa Normandie natale. Mais en écrivant ce roman-là, il essaie de montrer la force et la puissance esthétique et artistique que peut avoir le cirque à l'intérieur de l'action artistique en général à ce moment-là dans le pays.
L'histoire du cirque à Amiens, c'est en 1797
que ça commence
par l'intermédiaire d'un cavalier de l'armée britannique. L'Europe, finalement, c'était déjà le cas à l'époque. Ouais. Un certain Philippe Astley. Quelles bases du cirque moderne vont être posées avec lui? Je pense que c'est la question c'est, aux deux.
Benjamin pourra vous répondre plus précisément, mais ce qui est moderne dans la façon dont Astley va poser le problème du cirque, c'est que le premier geste, c'est le cheval. Le cheval va être le premier élément qui va tracer la piste du cirque. Ensuite, on peut dire qu'il y a le cavalier qui, vieillissant, devient un petit peu le clown blanc.
Ah, donc l'origine du clown blanc, c'est le cavalier.
Pour moi, en tout cas pour moi, c'est mon interprétation là aussi. Mais
et alors l'auguste,
je suis, et l'auguste, c'est le palefrenier qui tient le cheval. Et en fin de compte, à chaque fois que le palefrenier rentrait avec le cheval sur la piste, il faisait rire la foule. Et le cavalier vieillissant... venait jouer avec et son palefrenier et son cheval. Et autour de ça, après, on a pu faire rentrer ce qui était ce que j'appelle, moi, les arts de la rue, les saltimbanques, les équilibristes, les acrobates qui jouaient dans les espaces publics, auprès des cathédrales, dans les foires, etc., y compris nous, à Amiens, sur la place Angeville, on avait une foire commerciale où il y avait beaucoup de saltimbanques, et donc de les faire rentrer dans le cirque avec le cheval et les autres artistes.
Benjamin Grain, vous qui êtes voltigeur équestre, qui avez longtemps travaillé au sein de la troupe Zingaro, que représente pour vous ce fameux Philippe Astley?
Je ne l'ai pas connu,
non.
Forcément.
Et moi non plus.
Non, ce que je trouve fascinant, c'est d'avoir réussi à définir un espace de travail directement adapté pour les chevaux et qu'on retrouve aujourd'hui. Ça veut dire que dans n'importe quelle ville... le mois prochain, je vais participer au festival Janvier dans les étoiles à Toulon. On se retrouve dans une piste de cirque de 13 mètres. Il n'y aura pas eu de répétition en amont avec les chevaux sur place. Et pourtant, ils sont dans leur élément. Et ça, c'est rassurant pour eux comme pour nous.
Votre discipline de prédilection, c'est la voltige à cheval à la jockey. Une explication sur ce terme qui nous a intrigués?
L'explication, la vraie, je l'ai pas précisément.
Je pense que
ça tient à la. Je crois savoir que c'est la présentation qu'on a voulu donner à ce numéro où c'était un jockey qui arrivait sur un cheval et qui se mettait à un moment debout sur le cheval et qui enlevait sa selle de jockey. Donc la spécificité de cette discipline, c'est le travail debout sur la croupe et donc on profite du mouvement d'oscillation. Du galop du cheval comme source de propulsion pour des sauts au-dessus de sa croupe.
Alors Jean-Pierre Marcos, si cette scène elle est utile pour Benjamin Grain, pour d'autres circassiens, ce n'est pas la même chose. Elle peut paraître même bien inadaptée à l'évolution du nouveau cirque. Je pense à ceux qui préfèrent le théâtre, comme Yann Bourgeois, Aurélie Bory, Fia Ménard. Comment vous regardez-vous cette évolution du cirque et comment peut-être vous tentez de les faire revenir à ce cirque originel?
C'est-à-dire des circassiens qui viennent du milieu du théâtre avec une formation de circassiens ou du milieu de la danse contemporaine?
Oui, de toute façon, la plupart des spectacles qui sont montés actuellement sont montés de manière frontale sur une scène. Elles sont pas monter sur une piste. Donc tout mon travail à moi aujourd'hui avec mon équipe, c'est d'inciter à la création de spectacles qui vont occuper le cercle et qui vont faire qu'on soit en possibilité de présenter des spectacles qui trouvent le cercle comme élément de sa présentation. La Maison de la Culture d'Amiens présente des spectacles, la Maison du Théâtre d'Amiens également va présenter un spectacle en fin de semaine. Je veux dire, c'est pas... la diversité du cirque sur Amiens est réelle. On peut voir tous les spectacles et en même temps un certain nombre de choses innovantes, comme par exemple, on va voir cette semaine, dans le cadre du festival Tendance, on aura la production que nous avons faite avec la compagnie anglaise Gandini, Clown and Queens, qui sera un spectacle fait pour le frontal, mais adapté dans le cirque pour le cercle.
Gilbert Filinger, comment vous regardez cette évolution du nouveau cirque, donc de circassiens jeunes formés
au théâtre, au cirque, à la danse contemporaine et qui a changé. Un peu comme, on va dire, l'histoire du hip-hop. L'histoire du hip-hop est passée de la rue aux scènes de théâtre. Et c'est exactement la même chose avec le cirque qui a quitté donc, l'ambiance du cercle pour arriver et se présenter aujourd'hui sur des plateaux frontaux. Et j'imagine ici à la Maison de la Culture d'Amiens.
D'abord, je pense que c'est une spécificité, sans exagérer, hein, mais qui est très française, hein, puisque justement dans le cadre de nos rencontres européennes, souvent les gens sont étonnés par cette effervescence du cirque en France, hein, puisque dans de nombreux pays, le cirque, c'est une tradition. Et c'est vrai que dans ce pays, mais c'est aussi lié, je pense, à l'éducation, aux écoles qui sont nées un peu partout. Et voilà, donc, et je crois qu'aujourd'hui, les circassiens ont également envie de découvrir d'autres univers. Ils travaillent avec des chorégraphes. Et c'est vrai que donc, l'idée du frontal, pour eux, est beaucoup plus simple. Après, c'est également un cirque, et ça, je le sais, puisqu'on travaille souvent ensemble avec le cirque d'Amiens, il y a également des difficultés techniques. Donc, il y a des ambitions à ce niveau-là de la part des chorégraphes circassiens. Et ils ont besoin donc, de plateaux comme les nôtres pour arriver à mener à bien leur projet. Mais je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Et il me semble quand même qu'il y a une véritable circulation. C'est que les gens, les circassiens, ont envie de temps en temps d'expérimenter le cirque tel qu'il était et de temps en temps expérimenter le plateau d'un théâtre comme le nôtre.
Vous, Benjamin Grain, vous avez fait votre premier spectacle ici à Amiens il y a un an, je crois, Perspective équestre. Comment vous avez pris, du coup...
Perspective cavalière.
Cavalière, excusez-moi. Comment avez-vous pris en compte, justement, ce lieu, l'histoire de ce lieu, pour écrire votre spectacle?
Pour moi, c'est directement lié à mon histoire personnelle, le cirque d'Amiens. Je suis né à Amiens, donc forcément... Je connais le cirque depuis toujours.
Vous avez été à l'école du cirque.
À l'école du cirque d'Amiens, oui.
Dès l'âge de 6 ans.
C'est ça, donc il y a 30 ans maintenant. Et à l'époque, les cours se donnaient dans le cirque en dur. Donc c'est, voilà, pour moi, c'était une évidence de venir présenter le spectacle ici, boucler la boucle.
Donc comment vous l'avez pensé? Parce que vous l'avez transformé en maison close, c'est ça? C'est ça votre histoire personnelle?
Quel monstre!
Oui, voilà.
Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde à ça?
Voilà, non, là c'est un piège. Non, voilà, c'est la création du spectacle qui nous a emmené là-dedans. J'avais envie de travailler un petit peu sur le mélange des genres. Bon, voilà, tout c'est. J'ai pas voulu donner de cadre trop précis à la création au départ, et puis c'est de fil en aiguille avec la proposition des chevaux, des comédiens, des acteurs qu'on est arrivé à se raconter cette petite histoire autour de Madame Rose, matrone autoritaire de sa maison des délices.
On parle d'une évolution dans le nouveau cirque. Est-ce qu'au niveau du cirque équestre, il y a aussi une évolution, une sorte de révolution peut-être dans la présentation des spectacles?
Dans la présentation, probablement.
Dans la conception, même dans la vision, bien sûr, de cette esthétique.
Oui, je ne sais pas trop répondre à cette question. Ce qui est sûr, c'est que on est quand même dans. Ça me rappelle tout de suite la réflexion d'un de mes professeurs qui s'appelle Gilles Audjean et qui nous a dit un jour, vous aurez beau, à ses autres élèves, donc mes collègues et à moi-même, vous pourrez être les meilleurs du monde. Le niveau n'a jamais été aussi bas. c'est une réalité, voilà. Donc on essaie de faire autant qu'on peut, mais rien à voir avec le niveau que ça a pu être à une autre époque.
Jean-Pierre Marcos.
Non, simplement, nous, on a fait l'an dernier une saison entièrement consacrée au cirque équestre, et donc ça nous a permis de rencontrer quasiment tout ce qui se fait en matière de création équestre sur le pays et même à l'étranger. Et à l'étranger, il n'y a pas beaucoup de choses qui se font sur le cirque équestre, ni en Espagne, ni en Angleterre. C'est une singularité française, peut-être née avec Cirque Caligre et puis avec Bartabas et Zingaro. Et donc là, il y a vraiment une émergence qui est en train de se faire. Moi, je sais que pour la saison 2014-2015, on est en train de préparer un rebond du travail qu'on a pu faire avec certains artistes, notamment Manu Bigarnet. Et on va voir comment, en fin de compte, et Neti Radvani. Donc, on essaie de voir comment, en fin de compte, ce travail-là qui a été fait avec eux l'an dernier va pouvoir rebondir dans les prochaines années.
Le rendez-vous extérieur.
Changement de plateau parce que notre spécificité d'Amiens au niveau culturel, eh bien, c'est la bande dessinée, avec même un festival de bande dessinée. C'est fin juin autour de l'association On a marché sur la bulle, à la fois un festival, un centre de ressources, d'action pédagogique et une maison d'édition. Comment vous expliquez, Pascal Mériot, qui est à l'origine de cette action, l'effervescence autour de la BD à Amiens et notamment le fait que cette ville abrite de nombreux auteurs, par exemple comme Régis Autière?
Ça vient d'une ambition démesurée que l'on a eue lors de la création du festival en 96. On voulait inviter 9 auteurs de bande dessinée parce qu'on était 9 et on voulait en loger un chacun chez soi. Et donc c'est venu de ça. Et puis il y a eu un échec immédiat dans la mesure où les collectivités locales, les partenaires ont cru rapidement à l'intérêt de travailler autour du livre et qu'il y avait, il faut le dire, un manque, un besoin en tout cas en Picardie de manifestations un peu visibles. Et puis on s'est pris au jeu surtout, on a rencontré ce monde de la bande dessinée que l'on connaissait peu, que l'on connaissait en tant que passionné. Et dans un deuxième temps, Enki Bilal a fait l'affiche assez rapidement en 98, Jean Roba plus tard, Jiro Taniguchi plus tard encore. Donc des auteurs nous ont fait confiance et deux types de structures se sont intéressés à nous. D'un côté, le monde des bibliothèques et en particulier les bibliothèques départementales qui voulaient former leurs équipes aux spécificités de la bande dessinée. Et puis d'un autre côté, le monde de l'éducation nationale qui s'est penché fort sur cette problématique. Comment faire lire un jeune aujourd'hui? Toutes les études du CNL et tout ce qu'on peut voir autour de soi le confirment à chaque instant. Les pratiques de lecture sont en pleine érosion, en particulier dans les jeunes générations. Est-ce que la bande dessinée peut être un médium qui peut ramener des gens à la lecture, amener des gens à la lecture?
Vous avez une réponse?
Oui, sinon on ne sait pas. Disons que les gens ont cru en notre réponse.
Benoît Lagame.
Oui, on parlait de Jules Verne pour le cirque, mais la ville d'Amiens a longtemps été identifiée à l'histoire du roman populaire et à l'héritage de Jules Verne. Est-ce qu'on peut associer le dynamisme de la BD amiénoise à cette histoire littéraire?
Non.
Ah.
Enfin, je ne crois pas. S'il y a un lien, je ne le connais pas. Alors, on a travaillé, bien évidemment, avec la maison de Jules Verne à de nombreuses reprises. Il y a eu des adaptations qui ont été faites très réussies en bande dessinée aussi. Mais s'il y a un lien singulier de ce côté-là, je ne le vois pas. Ou alors, il faudrait imaginer qu'il y a comme une ambiance qui plane ici, hein, quelque chose. Mais pour en revenir à votre question tout à l'heure sur les auteurs, je crois qu'on a eu la chance d'avoir ces auteurs et ils ont eu la chance de nous avoir. Du moins, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'on dit d'eux. C'est-à-dire qu'il y a de ça 6 ou 7 ans, il n'y avait pas d'auteur de bande dessinée sur Amiens. Par contre, il y avait des gens qui avaient envie de travailler sur la bande dessinée, envie d'écrire, envie de dessiner, et qui ont rencontré, au moment du festival, qui ont rencontré un éditeur, qui un scénariste. Et aujourd'hui, effectivement, de ces petites rencontres et de cette présence de la bande dessinée, ont émergé des auteurs comme, vous en parliez, Régis Sautière, qui a quand même été nommé pour les Eisner Awards, l'équivalent des Oscars. Quoi. Ce type habite tout près de chez nous.
Vous faites ça. Il est merveilleux. Il devrait vous, pour le syndicat d'initiative, c'est pas possible autrement.
Au festival, c'est ambitieux là quand même.
On sait que les auteurs font la loi, mais pas les éditeurs. Comment vous faites alors pour toucher directement les auteurs si vous voulez vous exempter de la présence des éditeurs et de la force des éditeurs? Et pourquoi d'ailleurs fallait-il ne pas passer par eux?
Je ne sais pas s'il ne faut pas passer par eux. Du moins, on a commencé par la passion pure qui nous liait au livre. On s'est dit que de cet amour du livre arriverait peut-être une forme d'amour des auteurs, et on a été leur dire qu'on les aimait, avec chacun sa façon de le faire. C'est une association, chacun avait ses sensibilités, sa façon de parler, et c'est venu vraiment de ça. Et comme on a réussi... pour Enki Bilal comme pour les autres, à les convaincre de façon directe, simplement en leur parlant et en pensant qu'on serait capable de présenter de façon valorisante pour eux leur travail. Ils nous ont cru, on les a cru quand on a vu qu'ils nous croyaient.
Et les maisons d'édition vous ont suivi ?
Et les maisons d'édition aujourd'hui s'intéressent bien évidemment à notre travail. Il y a actuellement dans la ville, au moment où je vous parle, une rencontre avec des auteurs, Chris et Maël, les auteurs de Notre Mère la Guerre. Je l'ai animé pendant l'heure qui vient de précéder, avant de vous rejoindre rapidement. Bien évidemment, Futuropolis est entièrement avec nous derrière. On a même des projets de coédition avec eux. Donc oui, aujourd'hui, les éditeurs s'intéressent à ça, parce que ce travail de médiation, ils ne le font pas. Ça ne fait pas partie de leur mission, et ce n'est pas rentable, qui plus est. Et alors, si quelqu'un amène cette possibilité de rendre visibles leurs auteurs et de rendre visibles leurs productions, ça les intéresse.
Le rendez-vous en direct d'Amiens.
Extérieur.
Extérieur.
Enfin, plateau très sage avec vous, François Rouen, qui venait de nous rejoindre, artiste, peintre, photographe, un parcours qui commence au milieu des années 60, au moment même de la création de cette maison de la culture ici à Amiens. Mais vous, c'était du côté de Montpellier, pour une peinture qu'on identifie souvent à un geste, ou plutôt plusieurs gestes, une pratique en tout cas, le tressage de la toile et de papier dès 1966 ou 65, et qu'on retrouve encore aujourd'hui dans les tableaux que vous exposez ici. Je crois que l'ouverture est prévue pour le 21 janvier. Est-ce que vous vous souvenez, François Rouen, de votre premier tressage et donc du premier découpage de toile ou de papier pour ensuite assembler les bandes et les lanières entre elles?
Oui, je me souviens, je crois, assez précisément,
après avoir fait une peinture qui était amoureuse de la peinture et au fond terriblement épigonale entre des modèles différents de l'expressionnisme nordique, allemand et les fauves, puis en même temps la fascination pour les cubistes qui était encore autre chose, puis pour l'inscription des modernismes dans la perspective des Bauhaus, je ne savais plus très bien où j'en étais et j'ai eu, sous l'influence de Matisse, je peignais des belles feuilles de papier couvertes d'une gouache monochrome et je ne sais pas ce qui s'est emparé de moi, l'idée d'ouvrir cette surface monochrome de manière à avec le ciseau ou avec le cutter, un peu, de manière à ouvrir ce plan, de le gonfler par un étirement de droite et de gauche, et de le fixer par quelques poids de colle. Et ainsi, j'avais des objets qui rendaient compte d'un geste, d'une simplicité, d'une efficacité. C'était rouge sur blanc, c'était bleu sur blanc. Et la réussite n'était pas à tous les coups, mais enfin presque. Et il y a eu un relatif succès d'estime, d'abord auprès de mes petits camarades.
Ceux de Support Surface, à l'époque ?
Oui, ceux de Support Surface.
Claude
Viala, on regardait les mêmes choses, on aimait les mêmes choses, enfin, phénomène de génération. C'était tous des sudistes. Et donc, j'étais confronté, alors, certains même galeristes, parmi les plus distingués des galeristes parisiens, Jean Fournier, pour ne pas le nommer.
Qui était très attaché, notamment, à l'abstraction lyrique, enfin, une abstraction lyrique oui. américaine.
Parler de mon rimbaldisme, enfin, bon. Et cette réussite, entre avec tous les guillemets que ça nécessite, m'a inquiété plus que tout. D'autant plus que mes petits camarades de Support Surface, qui étaient des vrais citoyens généreux, passaient dans un pédagogisme qui m'angoissait beaucoup. Et du coup, mes premiers tressages ont été faits de ces objets magnifiques, post-maticiens, disons, pour aller vite, que j'ai commencé à mélanger par des natages successifs. Alors, cette pathologie qui constitue le cirque de ma vie, sauf que la mesure pour les circassiens, c'est le cheval qui a la mesure, chez moi, c'est plutôt le bourricot. Donc, ça déjà, et prendre deux beaux objets et essayer de les faire vivre ensemble, eh bien, vous rentrez dans un mal foutu qui m'a tenu, au fond, continuellement dans une réflexion et une pratique qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, même si elle a pu prendre différentes formes.
Alors, aujourd'hui, ici même, à la Maison de la Culture, vous exposez vos derniers travaux, Les Trotteuses, un autoportrait en trois couleurs, composé de peinture tressée grand format qui compose des surfaces en relief et qui joue sur un brouillage des limites entre abstraction, figure éclatée et quelquefois même lettrisme, des photographies argentiques et des vidéos où vous travaillez le nu féminin mais à travers tout un dispositif de transparence et de superposition, puis enfin la poésie en collaboration avec le poète Bernard Noël. L'exposition ouvrira mardi prochain. D'abord une question géographique. Vous êtes né à Montpellier, un ancrage dans le sud, hein, qui n'est pas sans rapport avec votre pratique, qui a un temps intéressé bien sûr Support Surface, qui comptait de peintre montpelliérain, c'est toi et ni moi. À quel moment vous vous installez dans l'Oise et est-ce que cela a pu avoir une influence sur votre travail, en termes de lumière par exemple, en termes de composition, même de format, François Rouen?
Écoutez, évidemment, quand on touche à du biographique, c'est fait de rencontres. Je venais de passer 8 ans en Italie, à Rome, et je me posais la question de devenir italien. J'habitais chez des cousins italiens, très proches. Et puis, je venais de temps en temps à Paris. Et finalement, au risque d'être un peu ridicule, je dirais que ce qui me manquait, c'était l'espace de la conversation et notamment la conversation avec les femmes, parce qu'avec les hommes, ça tourne très vite sur des abstractions dont j'ai pas besoin. Je suis suffisamment pris dans les grilles de l'abstraction du matin jusqu'au soir pour pas avoir. Et donc je me suis dit qu'il y avait une nostalgie de la France. Et donc j'ai décidé de revenir en France. Je suis un provincial à tout jamais, même si je paye mes impôts à Paris depuis toujours, même lorsque j'étais en Italie. Mais les hasards, comme je ne savais pas où trouver un atelier, les amis m'ont proposé une maison à louer dans l'Oise. Et là, je dois dire qu'assez vite, très très vite, au fond, j'ai compris que j'étais bien sur cette route des Flandres. Pour poursuivre la métaphore du cheval, comme vous savez, c'est quand même là que les beaux chevaux français ont commencé à tomber sur les bas-côtés de ces routes au moment de la Grande Guerre. Lire Claude Simon.
Ouais. La bataille des Flandres.
Bon, enfin, voilà. En tous les cas, j'ai aimé ce pays. Alors, pour moi, en sudiste, ce pays commence très proche de Paris. Je suis un banlieusard, on pourrait dire. Je vis en banlieue, en grande banlieue, mais avec le sentiment qu'il y a une pénétration sur le nord, une continuité de territoire, et que, au fond, vivant, étant un petit Français parmi les petits Français, confronté à cette extraordinaire présence partout de l'histoire. L'histoire dans le sud, évidemment, elle est partout, mais elle est brûlée par le soleil. Alors qu'au fond, le passage des saisons, qui ne me laisse pas indifférent en Picardie, puisque, eh bien, je me suis dit qu'au fond, moi, je préférais l'humus picard. Ça correspondait certainement mieux à la mélancolie qui accompagne le travail de peinture et qui fait partie complètement de ma vie. J'ai travaillé pendant 5 ans... la vidéo avec un monteur brésilien qui, dès que le soir commençait à tomber sur la Vercine, était très 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 inquiet et devait regagner au plus vite les lumières de la ville. Et sur le quai de la gare, il me disait souvent: mais c'est très bizarre, toi tu es obsédé par la mort et en même temps tu es jamais triste. Enfin voilà.
Eh bien, à ce sujet, je me demandais qu'est-ce que Jacques Lacan, que vous avez côtoyé pendant de nombreuses années, avait pu voir dans les tressages de vos peintures.
Écoutez, je n'aurais pas l'arrogance de répondre à cette question. Ce que je peux dire, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est une rencontre, presque comme une rencontre amoureuse, le coup de foudre. C'était dans un moment de sa vie où il était porté par une folie des tresses et des nœuds. Et il pensait que peut-être il y avait quelque chose chez ce jeune peintre. Enfin, il attendait quelque chose. Moi, je me disais, c'est un grand médecin, il doit penser que tu es complètement siphonné. Enfin, bon. Mais ça marchait très bien entre nous. Et ça marchait d'autant plus entre nous, c'est que je le voyais une ou deux fois par an. J'ai fini par l'écrire, j'ai fini par le dire. Et il m'a fallu longtemps, d'ailleurs, pour comprendre, bien longtemps après sa mort, c'est que moi, j'allais le voir convoqué par Jacques Lacan et il me remettait toujours une enveloppe. Alors j'avais pensé à un moment faire une analyse et au fond, je savais que je n'avais pas... D'abord, je n'avais pas l'argent et puis, de toute façon, je n'avais pas envie de... Je trouvais que c'était trop cher, que j'avais pas la surface économique pour me payer une analyse. Alors je crois que, mais ça j'en suis arrivé à cette conclusion peut-être 10 ans après sa mort, qu'au fond, je disais toujours, j'ai pas fait d'analyse. Et puis un jour, je me suis dit, mais c'est quand même très bizarre, cette histoire de transfert, parce que chaque fois que je suis allé voir Lacan, y compris la dernière fois, quelques mois avant sa mort, il est parti, lui, il n'y avait plus de dette, il m'a fait remettre l'enveloppe avec les quelques sous qui me devait, alors que moi, je suis éternellement en dette par rapport à la pensée de Lacan.
C'est ce qu'on appelle le transfert, véritablement. Donc, il était collectionneur de vos toiles ?
Alors, les collectionneurs, vous savez, c'est comme les histoires amoureuses. C'est fait de malentendus. Je ne peux pas parler des collectionneurs. Ce que je peux dire, c'est que, d'une façon générale, la possibilité de travailler, je la dois largement à mon pays. sur lequel je suis dans une colère perpétuelle, mais bon, ça c'est une autre histoire, et que c'est les collectionneurs, avant toute chose, qui m'ont permis de m'enfoncer dans ce cirque pour bourricots.
Dans l'exposition, ce sera ma dernière question, vous avez placé le thème autoportrait. Je me demande si vous l'aviez pratiqué littéralement. Est-ce que vous vous êtes déjà peint ou est-ce que vous vous êtes déjà photographié? À la manière, par exemple, d'Opalka, qui, à l'issue d'un tableau, faisait face à son appareil photographique. François Rouen.
J'ai essayé une seule fois. J'ai fait un autoportrait. Je ne me souviens plus le nombre de cases, mais j'ai fait des autoportraits dans les cases d'un jeu de loi. Alors, je ne me souviens plus très bien combien, parce que tout ça est assez ancien, et cet autoportrait est parti dans un musée allemand qui a une collection de dessins. Oui, j'ai fait une fois un autoportrait. J'y pense souvent parce que, au fond, en général, les autoportraits des peintres que j'admire m'ont toujours impressionné. Et je me dis peut-être que tu approches de la sortie, il serait temps de s'attaquer sérieusement à l'autoportrait. Alors, l'autoportrait est venu d'une demande du musée de la ville dans laquelle je suis né, qui ne s'est jamais intéressé à moi. Et puis un jour, il y a quelques années, un conservateur est venu me voir en disant « On va faire une rétrospective, une grande rétrospective de travail parce que la collection a à faire avec l'abstraction d'après la guerre. Et en même temps, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est que c'est une abstraction qui n'a jamais rien lâché sur la question du corps. » Alors c'était la première fois que j'avais un interlocuteur qui a lié la notion de corps, qui est une de mes folies, à la notion d'abstraction. Et je pense que ça m'a bouleversé, et je lui ai dit, mais vous savez, j'ai rien à foutre, moi, des rétrospectives. Alors il a insisté en disant, on va faire une grande exposition. J'ai dit, dans ces conditions, c'est au musée de Montpellier que j'ai découvert la peinture, quand j'avais 13 ou 14 ans, il n'y avait pas de livre à la maison sur l'art. Enfin bon, c'est en sortant de la bibliothèque municipale que je suis rentré musée, où j'ai été saisi je suis tombé sur la grande baigneuse. Imaginez une paire de fesses comme ça. Enfin bon.
On en retrouve encore chez vous.
Comment?
On en retrouve encore chez vous des paires de fesses comme ça.
Oui. Non, mais dans tous les cas, ça ressemblait à des fesses, quoi, telles qu'on les imagine quand on a 13 ou 14 ans. Mais je l'ai trouvé encore plus belle que dans la réalité. Dans le Sud, on a une culture de la plage. Et comme vous dites, on en trouve de toutes sortes. Bon, enfin, voilà. Et donc, je lui ai dit, je vais essayer de faire... J'ai dit une imbécilité, encore une. J'ai dit, je vais faire un film dans lequel j'essaierai de dire ce que je dois au paysage d'enfance et singulièrement ce que je dois au musée Fabre, puisque c'est au musée Fabre que j'ai vu pour la première fois à quoi ressemblait un tableau. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et disons que Trotteuse, c'est une c'est un morceau de quelque chose qui pourrait, si dans un langage ancien, si Dieu le veut, il y aura d'autres péripéties. D'ailleurs, je suis au travail dans la continuité. Et je dois dire que...
Ça sera le mot de la fin.
Déjà ?
Ah oui, on va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui.
Bien, comme on dit. Pardon.
Je vous coupe là-dessus alors ?
Oui.
Ah ben très bien, ah ben, je vous coupe. Ça s'appelle une interprétation.
C'est parfait, je vous remercie.
Oui. Désolé.
Je suis pour que le peuple accède directement à l'art, je suis assez marxiste là-dessus.
Je pense que c'est une spécificité très française.
En tout cas, c'est la tendance, et qu'il s'agit justement de ne pas faire de la culture une variable d'ajustement.
Avec le ciseau ou avec le cutter.
Merci à nos invités. Le cutter, c'est exactement ce que j'ai fait avec vous, j'en suis désolé. Merci à nos invités, Martin Angor, Gilbert Filinger, Benjamin Grain, Philippe Lacoche, Jean-Pierre Marcos, Pascal Mériot, François Rouen, Caroline Sevin. Ça, c'était pour aujourd'hui. Demain ? Demain, il faudra attendre lundi. Nous recevrons Simone et Jacques Schwarzbart et la réalisatrice Diana Gaille.
C'était le rendez-vous de Laurent Goumard, une émission préparée par Benoît Lagan, Mathieu Conquet, Aïssatou Ndoye et Elodie Royer. Équipe technique, Philippe Etienne, Marcos Darras, Sébastien Huel, Alain Piette. Chargé de production, Pascal Morel. Et à la réalisation, Thomas Beau.
Merci à toute l'équipe de la Maison de la Culture d'Amiens et au public venu nombreux. On les entend pour cette édition Villes en campagne. Il est 19h56, on est très en retard. Vous écoutez France Culture, c'est bien. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec les grandes lectures de France Culture sous un petit format. Et c'est Hugues Kester qui poursuit les pénétrables de Liliane Giraudon. Encore une histoire de corps et de poésie. Alors bonne soirée et bon week-end à tous.